Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, vous le savez, média et culture au sens large. Vous retrouvez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Bertrand Chameroy, c'est l'écran de veille. Eva Rock, le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences avec Louise Bernard et encore un phénomène. Nos indispensables du jour, c'est la programmation des vieilles charrues. Et puis la gastronomie, avec Laurent Mariotte, une sélection de terrasses, restaurants, de musées pour fêter cette double ouverture, les terrasses et les musées. Notre infomédia, pendant le confinement, chiffre assez ahurissant. 10% des Français ont essayé d'écrire un livre, des nouvelles ou une pièce de théâtre. 10%, c'est considérable. Et c'est l'objet du dossier « Écrire et se faire éditer » de Lire Magazine. Nous serons avec Baptiste Ligé, c'est le directeur de la rédaction du magazine. Nos invités ensuite, la comédienne Lola Devers et l'écrivain très particulier, vous l'entendrez, Hugo Auriot, pour la saison 2 de la série Astrid et Raphaël, qui démarre ce soir sur France 2. Une série non pas autour de l'autisme, mais dont des personnages est autiste. Et ça cartonne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la saison 2. Enfin, le ténor pop Amaury Vassili pour son nouvel album Crescendo. Et il y aura évidemment en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, vous avez essayé d'écrire un livre, vous, pendant le confinement ?
Pas du tout, j'en ai écrit trop, c'est trop de travail, j'arrête. J'en suis à 14, je m'arrête à 14. Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Christophe de Chavannes attaque M6 en justice. L'inquiétude d'une plateforme quelques jours après la fusion annoncée entre TF1 et M6. Et puis, une pratique contestée et des séquences particulièrement fortes dans le nouveau numéro de Sur le front sur France 5.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard. Qu'ont regardé les Français hier soir ?
Alors, pas vraiment de suspense sur le leader de la soirée, c'est évidemment HPI, la série, décidément un phénomène. C'était la fin de cette série, deux derniers épisodes inédits qui ont attiré 9 790 000 téléspectateurs. C'est en hausse, c'est le deuxième meilleur score depuis la soirée de lancement. Écoutez bien, le premier épisode est à 10 450 000 téléspectateurs, 43,6% de part d'audience. Et la cible publicitaire, je vous donne tous les chiffres, c'est important de voir à quel point c'est un phénomène, 48,2% sur les femmes responsables des achats, le moins de 50 ans. En moyenne, ça fait que la série a été regardée plus de 9 millions et demi de personnes, hein, 41,7%. Je pense que c'est un record pour une série parce que souvent les séries, en fait, elles démarrent très fort et ensuite ça baisse. Là, ça a réussi à augmenter. Enfin bon, c'est un vrai phénomène. Et si vous voulez découvrir d'ailleurs toutes les coulisses de cette série, je vous conseille d'écouter l'épisode du podcast de Sériland jeudi prochain. Eva Rock reçoit la créatrice qui a livré plein de petits secrets. Ensuite, deuxième, c'est Cache Investigation qui résiste quand même bien puisque c'est légèrement au-dessus des 2 millions. 8,9% de part d'audience. C'est le cinéma qui est à la peine. France 3 a diffusé La tête haute, M6 le film Le prénom. Ils sont au coude à coude, hein, M6 légèrement devant. 1 420 000 téléspectateurs, 6,3% de part d'audience seulement. Et France 3 qui fait le plus mauvais score pour un film diffusé sur cette case-là. 1 340 000 téléspectateurs seulement.
Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Genton, avec à la une Christophe de Chavannes en procès avec M6.
Une première audience s'est tenue hier, information de nos confrères du Parisien. Le producteur reproche à la chaîne d'avoir copié un concept d'émission qu'il était venu lui-même présenter à plusieurs reprises en 2017 et 2018, présenté à M6, une émission de relooking qui ressemble furieusement, selon Christophe de Chavannes, à Incroyable Transformation diffusée depuis 2 ans sur M6. M6 qui affirme que cette émission se distingue de celle proposée par l'ancien animateur dans sa mécanique et sa réalisation notamment, précise la chaîne. Christophe de Chavannes, lui, parle d'usurpation, de pillage, de copie parasitaire. Il réclame 10 millions d'euros.
Et puis dans l'actualité également, la possible fusion TF1-M6 qui continue de faire réagir, et pas combien.
Et Molotov notamment, c'est une plateforme de diffusion, on vous en a déjà parlé ici dans Culture Média. Elle permet notamment de regarder la télévision gratuitement en streaming sur un smartphone ou sur une tablette. Elle annonce qu'elle saisit les autorités concernées par le dossier, l'autorité de la concurrence et le CSA notamment, car le groupe qui pourrait se créer, le groupe donc TF1-M6, représenterait 70% du marché publicitaire, 40% un peu plus de part d'audience de la télévision. Une fusion qui présente des risques vitaux pour les acteurs de la télévision française. C'est ce que pense Jean-David Blanc, l'un des fondateurs de Molotov.
Il est clair qu'une fusion de cette taille-là, c'est une remise en cause de tous les équilibres dans l'audiovisuel, avec des impacts potentiellement importants, voire dévastateurs, dans plusieurs domaines de cette industrie, comme par exemple la production, la publicité et, pour ce qui nous concerne, la distribution. Donc attention aux effets de bord et ce que ça peut engendrer pour demain dans ces trois industries et plus généralement pour la pluralité d'expression et la pluralité d'exploitation. Il y a des autorités compétentes. Ce qu'on demande, c'est que chacune d'entre elles s'exprime et mette en place des garanties de manière à garantir cette pluralité, justement. Et qu'il n'y ait pas d'un seul coup un genre de monopole qui s'installe ou un duopole avec le service public autour de l'audiovisuel en France.
Voilà, Jean-David Blanc qui souhaite donc obtenir des garanties sur la pluralité de la distribution des chaînes sans être opposé par principe à cette fusion.
Le focus programme du jour, c'est le nouveau numéro de Sur le front, diffusé dimanche soir sur France 5.
Il s'intéresse à la chasse et plus précisément à des lieux méconnus du grand public mais pourtant très répandus, les enclos de chasse. Il en existe plusieurs centaines en France. Ce sont des terrains privés entièrement entourés de clôtures, de grillages ou de murs dans lesquels on a fait venir des animaux comme des sangliers, des cerfs, des chevreuils pour que des chasseurs viennent ensuite les tuer, une pratique contestée. L'émission donne la parole aux opposants, des militants, des scientifiques, mais aussi aux chasseurs eux-mêmes, une manière de mieux comprendre leur motivation et d'enquêter de l'intérieur aussi. C'est comme ça qu'Hugo Clément a fait une découverte.
Beaucoup d'animaux qui sont chassés dans les enclos de chasse, comme les sangliers par exemple, sont en fait issus d'élevage, ne sont pas des animaux sauvages. Ce sont des animaux qui sont élevés spécifiquement pour être relâchés dans des enclos et chassés. Donc on est très très loin de la fameuse régulation dont parlent souvent les chasseurs pour justifier leur activité en disant il faut chasser pour réguler certains animaux. Là, on est carrément dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on élève des animaux pour les relâcher, pour les chasser. Donc il n'y a plus aucune notion de régulation, il n'y a plus aucune notion d'éthique de la chasse, on va dire, puisque les animaux n'ont aucune chance. Et donc c'est une pratique, les enclos de chasse, qui est contestée, y compris par beaucoup de chasseurs.
Voilà, contestée au point d'être interdite en Belgique. En France, ce n'est donc pas le cas. Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays non plus. Et si elle existe encore, c'est principalement pour une raison, l'argent.
C'est une industrie qui brasse énormément d'argent. Il y a des gens qui se font des millions de dollars et des millions d'euros grâce à la chasse en enclos. Et c'est pour ça que cette chasse, elle existe toujours aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui en profitent financièrement de manière très importante. C'est pas simplement quelques petits chasseurs dans leur coin qui font ça pour passer le week-end. C'est vraiment une industrie qui a un poids financier extraordinairement élevé, quoi.
Hugo Clément qui incarne sur le front parler de dollars parce qu'aux États-Unis, chasser en enclos est une activité particulièrement lucrative, au Texas en particulier. Là-bas, les animaux chassés ne sont pas seulement originaires des grandes plaines de l'État, mais aussi de la savane africaine. Il y a des zèbres, des antilopes et même des espèces qui n'existent plus dans leur habitat naturel. Les équipes de Sur le front sont parvenues à filmer l'anniversaire d'un jeune Américain de 17 ans. Une chasse aux zèbres, scène glaçante. Sur le front, le monde opaque des enclos de chasse, c'est à voir dimanche soir, après-demain, donc à 20h50 sur France 5.
Et l'Eurovision, c'est demain soir et la Française Barbara Pravi a des chances de victoire.
Voilà la chanson qu'elle a écrite et composée et qu'elle va interpréter à Rotterdam. Barbara Pravi, que vous avez reçue, Philippe, ouais, avant son départ pour les Pays-Bas, est donnée gagnante par quelques bookmakers au coude à coude avec le groupe de rock qui va représenter l'Italie, Maneskin. Vous allez l'entendre, c'est un tout autre style. Alors on bouge tous la tête en studio.
On s'est cassé une vertèbre.
Titi et Buoni, taisez-vous et tenez-vous bien, c'est la chanson de l'Eurovision la plus streamée dans le monde sur Spotify. Voilà, et cinquième, là encore c'est un signe qui est plutôt positif. Je vous rappelle, cela dit, que ce sont les téléspectateurs des pays européens qui votent et pas ceux du monde entier. L'Eurovision, c'est donc demain soir à 21h05 sur France 2 avec Stéphane Bern et Laurence Boccolini.
Moi j'y crois, je pense qu'on va gagner, vraiment.
On prend les paris.
Au moins un top 5.
On prend les paris.
On fait un pari si vous voulez.
Pareil, moi aussi.
Une bouteille en terrasse. Eurovision encore, ou plutôt Eurovision Junior, France Télévisions a donné hier quelques détails sur l'organisation de la prochaine compétition.
Et notamment le nom de la ville qui accueillera la compétition cette année, le 19 décembre, ce sera Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris, ce sera la scène musicale. On savait déjà que l'Eurovision Junior aurait lieu en France, parce que c'est une Française qui avait remporté le concours l'an dernier, Valentina. Valentina, à qui France Télévisions a fait un petit clin d'œil en choisissant Imagine comme slogan de la prochaine édition. J'imagine, c'était le titre qui avait permis à la fillette de gagner.
Chanson écrite par Barbara Pravi.
Exactement, et vous l'avez pour la journée dans la tête. Ne me remerciez pas. Et puis vous vous souvenez du défi relevé par deux des plus célèbres youtubeurs, McFly et Carlito?
Oui. Bah oui. Oui, c'est devenu quoi alors?
Bah
il
oui,
fallait atteindre 10 millions
mois.
De vues.
Exactement, ils les ont atteints ces 10 millions de vues très rapidement pour une chanson sur les gestes barrières, un défi qui avait été lancé par Emmanuel Macron, le président de la République. Il s'était engagé en cas de succès à participer à leur concours d'anecdotes. Eh bien le chef de l'État l'a fait.
Carlito, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse?
Extrait d'un court teaser diffusé hier sur le compte Twitter de Carlito, teaser qui donne le jour et l'heure auquel sera diffusé ce concours. Ce sera après-demain, dimanche, à 10h.
Ah, maintenant, envie de connaître l'anecdote. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard. On prend les paris, on sera avec toute l'équipe pour voir si vous avez raison ou tort. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
Bon week-end.
Notre info média du jour va s'intéresser à un phénomène, celui de l'écriture. Un Français sur 10 se serait lancé comme moi dans la rédaction d'un manuscrit pendant le premier confinement. J'ai menti tout à l'heure. On en parle avec Baptiste Ligé, directeur de la rédaction du magazine Lire.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Cela vous a peut-être déjà démangé, en particulier au cours de ces derniers mois bloqués chez vous. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Bien au contraire, écrire une nouvelle, un roman, une pièce de théâtre, de la poésie, c'est ce qu'ont fait près de 10% de Français et de Françaises pendant le premier confinement. C'est le résultat d'une étude parue l'an dernier, mouvement qui s'est confirmé cette année, à tel point que l'une des plus grandes maisons d'édition, sinon la plus grande, Gallimard, a récemment demandé aux apprentis écrivains d'arrêter de lui envoyer leurs manuscrits. Ceci dit, Gallimard n'est pas forcément représentatif du secteur et d'autres maisons, elles, sont encore à la recherche de nouveaux textes. Alors, question, à qui envoyer sa prose ou ses vers? Quelles sont les règles à suivre pour se lancer dans l'écriture d'un livre? Bref, comment s'y prendre? Des questions auxquelles répond aujourd'hui un hors-série du magazine Lire. Bonjour Baptiste Ligé.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Lire magazine littéraire. Écrire et se faire éditer, que je montre ici à la caméra sur europe1.fr, c'est le titre de ce hors-série. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur ce sujet?
Il faut savoir que depuis très 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 longtemps, lorsque Lire était tout seul, puisque Lire et le magazine littéraire étaient deux entités qui sont aujourd'hui réunies, et de manière, j'allais dire, très fréquente, on revenait sur ce dossier comment se faire éditer, parce que c'était une vraie demande du public. On s'appelle Lire, mais beaucoup de gens qui, encore une fois, achètent le magazine et le dévorent, écrivent aussi, et pour beaucoup aimeraient avoir ce désir de publication. Et on s'aperçoit que si certaines règles sont toujours valables et n'ont pas beaucoup évolué avec le temps, au contraire, c'est quelque chose d'assez évolutif dans certains points, d'où la nécessité de se dire cette fois-ci, allez, on ne fait pas quelques pages, on fait carrément un numéro entier, façon kit, en quelque sorte.
Un Français sur 10, c'est le résultat d'une étude Harris Interactive, c'est prodigieux. Si on compte qu'en France, il y a 50 millions d'adultes, ça fait 5 millions de Français qui ont essayé de s'y mettre. Comment expliquez-vous, si tant est qu'on puisse l'expliquer, ou alors comment interprétez-vous ce besoin d'écrire?
Alors, il faut aussi, c'est un chiffre qui a été dévoilé l'année dernière par Harris Interactive. Alors, où commence véritablement le fait de débuter un livre? Est-ce que c'est juste une idée qu'on a dans la tête? Est-ce que c'est le fait d'avoir juste mis trois mots sur un fichier? Bon, voilà.
Attendez, je vous interromps. François Veillargan, vous avez une idée et le livre sortait 20 ans plus tard parfois.
C'est vrai.
Et les plus grands ont mis aussi du temps.
Mais bien sûr, l'histoire littéraire le montre d'ailleurs.
C'est quelque chose de velléitaire, l'écriture.
Absolument.
Comment vous l'expliquez? Pas que ce soit velléitaire, mais qu'autant de gens aient envie d'écrire.
Parce qu'on s'est retrouvé face à du temps libre, en quelque sorte. Pas toujours, mais pour nombre de personnes. Et surtout le fait de se retrouver par rapport à soi-même. Et donc, on a une vie intérieure, j'allais dire, plutôt riche dans des moments tels que celui-ci, et donc on a envie de l'exprimer, et on s'aperçoit que, en plus le fait de parler de soi, notamment avec cette mode des récits autobiographiques qu'on retrouve beaucoup en librairie, on se dit, pourquoi pas moi?
Bien sûr, c'est l'avènement de l'autofiction, on est sûr d'avoir une bonne histoire, puisqu'il suffit de raconter, enfin il suffit, on peut raconter sa vie. Alors, petit paradoxe, dans le même temps, une étude montre que peu à peu, il y a malheureusement de moins en moins de lecteurs. C'est le résultat du dernier baromètre de la lecture et du CNL, le Centre National du Livre. Je vais poser la question ainsi, est-ce qu'on peut écrire sans livre? Sans lire?
Quand on y pense un instant, fondamentalement, parmi les gens publiés, il y a beaucoup plus de chances de se retrouver face à de gros lecteurs. Tout simplement parce qu'on prend généralement la crème de la crème dans ce qui arrive dans les services de manuscrits. Et donc, ceux qui ont lu beaucoup connaissent beaucoup de règles de fiction, ont pris presque inconsciemment de bons tics d'écriture en quelque sorte chez les autres et les ont appliqués. Donc, c'est pas une règle absolue. On peut être un petit lecteur en quelque sorte et réussir un chef-d'œuvre. Ça, c'est pas du tout impossible. Mais généralement, de manière quasiment statistique, oui. Voilà, les personnes qui réussissent à publier sont de gros lecteurs.
Alors justement, on en vient à ce hors-série. De quoi s'agit-il? Comment l'avez-vous conçu? Qu'est-ce qu'on y trouve?
On a essayé vraiment de voir le sujet de manière très large. Tout d'abord, en cassant quelques clichés sur l'édition, sur le monde de l'édition, à travers quelques petites questions, un peu caricaturales.
Par exemple, un cliché que vous cassez.
Par exemple, est-il facile pour les journalistes de se faire publier? Vous, Philippe, encore une fois, vous avez aussi publié quelques livres.
Mais moi, c'est différent parce que moi, mon premier livre s'est bien vendu, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième. quatrième aussi. Oui. Donc c'est très facile.
Et ben voilà, vous avez donné un premier élément de
réponse.
Oui, mais
il faut
avoir
la chance de bien vendre son premier livre.
Absolument, voilà. Et donc, ça peut être facile d'un certain côté parce qu'on a un nom, un prestige, on connaît quelques copains journalistes, mais après ça peut être un handicap. À l'inverse, en disant « Ah oui, non mais lui je le connais, je l'ai vu à la radio, à la télé, non je l'aime pas. » Et donc de fait, vous arrivez avec un CV un peu négatif en quelque sorte. Donc oui et non. Non, surtout, on a voulu voir le sujet de manière très large, avec quelques petits rappels de grammaire et d'orthographe.
Attends, ça il faut en parler, parce que ça m'a vraiment frappé. Le premier conseil que vous donnez, c'est faites attention aux fautes d'orthographe. Et je me dis, mais pourquoi avoir choisi de commencer par là? Est-ce important à ce point, comme une dictée de sixième qui n'existe plus?
Mais même moi, ça m'a surpris quand on a vraiment réfléchi sur le dossier, parce qu'on a parlé à de nombreux éditeurs, ils nous ont dit, on a énormément de manuscrits, mais qui sont truffé de fautes d'orthographe et de grammaire.
Mais est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que la maison d'édition peut recaler un manuscrit parce qu'il y a des fautes? Vous racontez vous-même que Stendhal faisait des fautes.
Tous les grands, voilà, bien sûr. Heureusement, ça permet de relativiser pas mal de choses. Non, c'est pas faire quelques coquilles ici et là, c'est pas un problème. Il faut un petit peu respirer sur le sujet. Toutefois, ça peut aussi traduire un vrai problème de sens et de signification dans ce qu'on a à dire, s'il y a vraiment énormément de fautes, et tout simplement une simple relecture aurait permis d'éviter toutes ces coquilles qui peuvent se révéler rédhibitoires si elles sont vraiment trop nombreuses.
Voilà, je pense à tous les gens qui font beaucoup de fautes d'orthographe et qui, en nous entendant, vont faire un infractus. Non, on dit un infarctus. C'est ce qu'on apprend justement dans Lire Magazine. C'est l'un des conseils que vous donnez. Vous restez avec nous, Baptiste Liger. Vous êtes le directeur de la rédaction de Lire Magazine littéraire. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Baptiste Liger, le directeur de la rédaction de Lire Magazine Littéraire, nous parlons de ce hors-série Écrire et se faire éditer. Beaucoup de gens ont envie d'écrire des pièces de théâtre, des nouvelles, des essais, mais surtout des romans. Le cœur de votre hors-série, vous le consacrez à la manière de raconter une histoire. Quels sont les points les plus importants selon vous?
Alors bon, évidemment, chaque roman est unique, chaque œuvre est unique, bien sûr, et on ne va pas nier ce principe général. Toutefois, on s'aperçoit qu'il y a quand même des éléments qui reviennent systématiquement. Et que des éléments qu'on doit analyser, et on doit se poser certaines questions, tout simplement. Comment créer des personnages? Comment faire pour que ceux-ci à la fois soient immédiatement identifiables et en même temps ne soient pas des clichés? Et comment on dose? Qu'est-ce qu'on doit dire sur eux? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire sur eux? Comment ensuite on crée les autres protagonistes pour qu'ils puissent être différents et immédiatement identifiables eux aussi? Comment on réussit les interactions? Toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a les questions de l'intrigue. On part d'un point A à un point B. Ouais. Il faut qu'on ait une vague idée d'où on va, même si évidemment les aléas de l'écriture font que parfois on va prendre une direction différente. Qu'importe, il faut qu'on ait une idée de progression. C'est ça, hein, on ouvre un livre à la première page et on termine à la fin.
Je souris parce qu'il y a beaucoup de romanciers, on en reçoit beaucoup ici dans Culture Média, qui appliquent la règle que vous appliquez, et une partie qui dit, moi quand je démarre, je ne sais pas ce qui va arriver à mon personnage et c'est lui qui décide.
Ouais, mais j'allais dire, la personne qui se lance dans le projet...
C'est une posture?
Non, c'est pas forcément
moi,
une posture.
Moi je veux dire, j'ai jamais cru à ça.
Non, je pense que quand même on a une idée de vaguement où on veut aller. Mais voilà, c'est comme vous lancez sur la route, vous savez que vous voulez aller dans le sud, à quel endroit, mais vous hésitez à aller finalement, je vais prendre la nationale, non, la départementale ou quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'on est plus dans cet état d'esprit. Voilà, oubliez cette considération d'ordre simplement autoroutier en quelque sorte.
Ouais. Mais
voilà.
Et très important aussi, vous parlez des dialogues.
Mais oui, les dialogues. Qu'est-ce qui fait qu'un dialogue est juste? Parce que voilà, ce n'est pas simplement le fait de retranscrire ce qu'on peut dire à l'oral. Non, il y a un filtre qui fait que voilà, le bon dialogue n'est pas forcément celui qu'on va utiliser dans la réalité. Encore une fois, comment faire pour que celui-ci ait cet effet de réel à proprement parler? En même temps, ça peut être aussi un vecteur de ton. On peut faire des dialogues complètement irréalistes, mais ça donne une tonalité qui s'ancre complètement dans le monde que vous imaginez. Là aussi, c'est une question de dosage et de ressenti. Et ce que j'aurais tendance à recommander, c'est de faire tester autour de soi, auprès de gens en qui on peut faire confiance.
Auprès de vraies personnes. Et à qui il faut demander, moi j'ai un conseil à demander en disant, dis-moi ce qui ne va pas. Parce que si on demande à quelqu'un, dis-moi ce que tu en penses, comme il est poli, il va dire, il faut demander, dis-moi ce qui ne va pas, comme ça vous êtes certain de vous prendre un tacle, donc du coup ça ne vous vexe pas, et comme ça vous avancez, vous progressez.
Et il y a plusieurs personnes pour voir si les éléments se recoupent.
Pour répondre également aux questions que les écrivains en herbe peuvent se se poser. Il y a les ateliers d'écriture, il y en a de plus en plus, vous en parlez dans leur série. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que vous les recommandez, les ateliers d'écriture?
Ah bah oui, ça je pense que clairement c'est une très bonne formation. C'est pas forcément obligatoire évidemment, il existe des ateliers aussi bien en présentiel, selon ce mot délicieux qu'on utilise de plus en plus, ou en distanciel. Allez, on va continuer dans le genre, et pourquoi pas. Ce qui est très bien d'avoir un professionnel qui nous aide, qui nous guide dans un tout petit groupe. On voit un petit peu aussi, au-delà de son cas personnel, on voit à travers le cas des autres ce qui peut nous ressembler, ce qui est différent. Et je pense que cette interaction est très bonne. Et puis, bah voilà, vous avez des ateliers qui sont très très généraux sur la littérature en général. D'autres, parfois, c'est simplement sur l'art du dialogue, comme on évoquait, ou la création d'un personnage, ou la création d'un décor, comment faire une bonne description, comment tenir sa narration. Comment, par exemple, si vous choisissez un polar, vous devez imaginer plusieurs rebondissements, évidemment au fur et à mesure de l'intrigue, mais comment choisir le bon moment pour faire arriver un rebondissement. Voilà, voilà quelques-unes des questions qui peuvent être traitées dans un atelier.
Je souris parce que j'ai déjà lu des livres de 200 pages dans lesquels il n'y avait aucun rebondissement. Et on avait quand même envie qu'il se passe un truc.
Pourquoi pas.
Oui, qui était édité quand même. Vous donnez une liste de 60 éditeurs avec une courte fiche de présentation pour chacun, pour savoir à qui adresser son manuscrit. Évidemment, si on écrit des récits de science-fiction, on va plutôt envoyer son texte aux Forges de Vulcain plutôt que chez Robert Laffont qui publie plutôt des biographies. Vous parlez des attentes des éditeurs et ça aussi c'est très utile.
Oui, parce que ce qu'attendent aussi les maisons d'édition, ce n'est pas forcément d'avoir une tonne de manuscrits qui arrivent chaque jour. C'est plusieurs dizaines en général, chaque jour, dans chaque maison. Voilà, quand on voit la réalité de la production, par exemple, dans une maison moyenne, il y aura 2 ou 3 premiers romans dans l'année maximum. Bon, on relativise un petit peu par rapport à l'arrivage. Non, c'est bien choisir. Ne pas oublier, au-delà de son manuscrit, de soigner sa lettre de présentation, dire qui on est, présenter brièvement le livre, son rapport à l'écriture, son parcours et une présentation efficace et surtout la justification. Pourquoi je dois choisir telle maison et pas telle autre et montrer que ça n'est pas une erreur et un courrier envoyé comme ça un petit peu hasard. Non, personnaliser et choisir intelligemment la maison, ça c'est le conseil numéro 1 dans l'envoi.
Je reviens à la requête des éditions Gallimard. Est-ce que vous estimez, Baptiste Liger, qu'il y a trop de gens qui envoient des manuscrits? Pour prendre le sondage, 10% des gens qui se mettent à écrire, ça fait 5 millions d'adultes, c'est un chiffre énorme. Est-ce que c'est trop? Pas trop qui écrivent, mais trop qui encombrent les maisons d'édition.
Bon, déjà,
parce qu'après, on peut être Fernando Pessoa, écrire pour soi-même et mettre tout ça dans une malle.
Bah, quand on sait qu'à peu près, dans les livres qui arrivent par voie postale, en quelque sorte, c'est à peu près 1 sur 1000, on est à peu près dans cet ordre-là, qui finit au final par être publié dans la maison en question, ça veut dire que vous voyez le déchet à proprement parler, et grosso modo, 4 sur 5, voire 9 sur 10 des manuscrits ne sont même pas lus sérieusement. Tout simplement parce que, comme il y a très peu d'élus, on voit tout de suite si un livre a une chance ou pas d'arriver, être l'élu. C'est comme lorsque vous voyez une copie, au bout de quelques lignes, vous voyez très bien si elle a une chance d'avoir entre 18 ou 20, ou si elle risque d'être plus faible.
Et vous-même, vous trouvez qu'il sort trop de livres? Par exemple, la rentrée, c'est 600, 650 romans. Je veux dire à quoi je pense. Je me souviens d'un titre du mensuel Technicart, il y a quelques années, qui critiquait le fait que n'importe qui, désormais, pouvait être amené à publier un livre. Et le titre était terrible, c'était « Avez-vous fait vos besoins littéraires ?»
On s'aperçoit, ça c'est l'effet paradoxal, on produit énormément et plus on produit, et moins de titres s'avèrent de vrais grands succès de librairie. C'est un petit peu comme au cinéma, vous voyez, vous avez beaucoup de films qui sortent et les entrées se concentrent uniquement sur quelques films.
J'ai bien
compris.
C'est
exactement le même procédé.
Ma question c'était, est-ce que selon vous il y en a trop ou est-ce qu'au contraire c'est signe de bonne santé et d'une richesse culturelle dans ce pays?
Les deux. À la fois, c'est, j'allais dire, salutaire parce que chacun peut trouver le livre qui lui convient parfaitement, et c'est très bien, notamment dans le domaine des essais, d'avoir des choses très précises, très pointues. Tout ça est plutôt salutaire. En même temps, par rapport aux chances de succès d'un livre, elles sont de plus en plus faibles, ça c'est certain.
On est ici une émission média également. Lire a racheté le nouveau magazine littéraire en juin dernier. Comment s'est passée la fusion? Est-ce que ça a permis d'augmenter la diffusion?
Oui, bien sûr, oui. Encore une fois, c'était un petit peu l'idée. Non mais vraiment, on avait deux titres qui n'étaient pas fondamentalement concurrents, mais qui avaient quand même, qui traitaient de la même chose. Et l'idée de Stéphane Chabna et Jean-Jacques Ogier, ça a été vraiment de les rapprocher, d'essayer de faire une fusion intelligente pour avoir un titre fort qui serait le titre qui promeut aujourd'hui la littérature dans toute sa diversité. On peut aussi bien parler du dernier succès d'un auteur très populaire, un petit peu à la Marc Lévy, Michel Bussy, ou d'un poète hongrois du 11e siècle. Enfin voilà, c'est vraiment de couvrir le spectre exactement quand on va dans une librairie. C'est ça véritablement l'idée.
Et je vais donner le chiffre, la diffusion totale en 2020 était de 57 250 exemplaires par mois, ce qui est assez considérable. Je vais finir, ça m'est revenu comme ça un conseil de Somerset Maugham, l'écrivain, qui disait « Il y a 3 règles de base pour réussir un roman, Le problème, c'est que personne ne les connaît. Merci beaucoup, Baptiste Liger, directeur de la rédaction de Lire Magazine, slash magazine littéraire. Ce hors-série Écrire et se faire éditer sort aujourd'hui en kiosque, 8,90€, et c'est en partenariat avec Europe 1, je le précise. Et on vous a reçu quand même, si ça n'avait pas été en partenariat avec nous. C'est très, très, très intéressant ce qu'on trouve dans ces pages. Dans un instant, nous serons avec les comédiens Lola Dever et Hugo Oriot, qui est comédien mais aussi écrivain. Vous allez comprendre pourquoi il est avec nous pour le démarrage de la deuxième saison d'Astrid et Raphaël sur France 2. Culture Média continue.
Europe 1 Culture Média, l'émission de référence sur les médias. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Lola Dever.
Mais bonjour Philippe.
Vous êtes comédienne, vous êtes la fille de Patrick Dever, immense acteur qui s'est donné la mort lorsque vous aviez seulement 3 ans, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On vous a vu dans des comédies comme Mince alors de Charlotte de Durkheim, qui était notre invitée hier. Qui vous a valu une nomination au César, catégorie meilleur espoir. Et vous incarnez Raphaël dans la série Astrid et Raphaël sur France 2. La saison 2 démarre ce soir à 21h, 8 épisodes de 52 minutes. Bonjour Hugo Oriot.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes à distance avec nous. Vous êtes comédien, écrivain, auteur d'un livre publié en 2013, L'Empereur, c'est moi, qui raconte votre vie et votre parcours d'autiste. Je vais le préciser pour qu'on imagine, on réalise la personne que vous êtes. Vous avez seulement commencé à parler à l'âge de 6 ans. Et sur cette fiction, vous êtes, entre guillemets, le référent autiste. On va expliquer pourquoi. On peut déjà dire qu'Astrid et Raphaël n'est pas une série sur l'autisme, mais une série dont l'un des personnages est autiste. Ça avait très très bien marché la saison 1, d'où la saison 2 en ce moment, enfin aujourd'hui qui démarre. Ce soir, Lola Dever, vous incarnez Raphaël Coste, c'est la commandante de brigade criminelle Coste. Comment vous la qualifieriez ?
Alors Raphaël Coste, c'est nature peinture comme on dit, hein. C'est vraiment le bulldozer dans toute sa splendeur, la nana très pugnace dans ses enquêtes, et puis surtout une femme qui n'a pas le jugement facile, c'est-à-dire qui est quand même très ouverte d'esprit, et c'est pour ça que la relation va marcher avec très fort avec Astrid.
Eh ben justement, votre binôme Astrid, incarnée par Sarah Mortensen, criminaliste, consultante, mais en même temps autiste.
C'est ça, donc Astrid est archiviste à la documentation criminelle, c'est là qu'on se rencontre la première fois, et elle est autiste Asperger. Et va se lier. Alors au début, ça va être très opportuniste de ma part, hein, d'intégrer Astrid dans ma vie et dans ma vie professionnelle et personnelle. Et puis, il va jaillir de ça une formidable amitié.
Ouais. Hugo Oriot, quel a été votre rôle sur cette série ?
Eh bien, mon rôle a été de travailler en amont sur les textes pour un petit peu étudier chaque situation dans laquelle va se trouver le personnage d'Astrid. Ouais. Parce que c'est vrai qu'un personnage qui se trouve en dehors de la norme, sur le plan cognitif, qui est dans une minorité cognitive comme l'autisme, va souvent se trouver dans des situations de décalage par rapport à son entourage. Et ça va induire certains malentendus. Et donc, mon rôle était vraiment d'être présent pour éviter les situations de clichés, comme ça peut arriver parfois, et en même temps d'être en mesure de pouvoir rendre ça au service de la fiction. Et étant acteur moi-même, je sais en fait quand on peut des fois être dans un souci de réalisme et parfois où il vaut mieux privilégier la fiction puisqu'on n'est pas non plus en train de faire un documentaire.
Bien sûr. Vous dites que vous étiez présent pendant l'écriture, vous étiez présent également pendant le tournage. Je vous pose la question parce que, par exemple, le personnage d'Astrid est pleine de mimiques, de toc. Elle a une manière assez incroyable de déplacer son regard, ou plutôt son visage, plutôt que son regard dans le visage. Une diction très caractéristique. Il fallait ça pour signifier à l'écran qu'elle était autiste. C'était une caractéristique. Comment c'est venu et quel a été votre rôle sur ce sujet ?
Alors, sur le tournage, oui, j'étais présent, pas pendant tout le tournage, mais quelques temps. Alors, parce que j'ai également eu le plaisir de jouer dans la série. Et donc, oui, je suis en dialogue très souvent avec Sarah Mortensen, qui, souvent me pose des questions et on discute ensemble au sujet de comment on peut faire passer telle ou telle idée dans le personnage, etc. Et donc, mon rôle, c'est de la présence, on va dire, de la présence bienveillante.
Alors, comment Astrid et Raphaël travaillent-elles ensemble ? On va dire qu'elles se comprennent sans se comprendre, tout en se comprenant. Extrait.
Alors, vous avez trouvé des choses sur Jobert ?
Oui,
Mais avant de vous faire part de ce que j'ai découvert, je dois au préalable vous expliquer qu'il existe un réseau de personnes comme moi.
Comme vous? Des autistes?
Non, des documentalistes criminels, Raphaël. C'est un réseau tout à fait d'officieux.
Bien sûr.
La majorité du temps, nous ne parlons que de classement. Mais il peut nous arriver, parfois, exceptionnellement, de poser des questions d'un autre ordre.
Sans déconner. Et votre réseau, là, ce sont des documentalistes de tout le pays?
Non, du monde entier.
Astrid fait la différence, le réseau de tout le pays, du monde entier. Vous faites aussi des différences comme ça, très très pointues, Hugo Auriot.
Est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai mal entendu?
C'est pas grave. Vous savez quoi? On va parler de l'intrigue, qui est beaucoup plus importante que ceci, et la manière dont les autistes voient les choses, parce que ça permet de la résoudre. On est avec vous, Hugo Auriot. On est avec Lola Devers. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne Lola Devers et le comédien et écrivain Hugo Auriot, on parle de la saison 2 de la série Astrid et Raphaël. Ça démarre ce soir sur France 2 à 21h. On a parlé de l'autisme, il faut quand même raconter que c'est d'abord une série policière, c'est aussi une série très drôle, mais c'est aussi une série policière avec des intrigues extrêmement sophistiquées et vraiment très intéressantes. Pour la saison 1, il y avait un écrivain tué chez lui alors que son appartement était fermé de l'intérieur, ou alors une chercheuse retrouvée noyée au Muséum d'Histoire Naturelle sans aucune eau à proximité. Eh bien, cela existe, cela s'appelle la noyade sèche. Lola Devers, l'intrigue du jour, du premier épisode, c'est quoi?
Alors, c'est un avocat qui va se faire tirer dessus pendant une réunion. Il y a 12 personnes et personne n'a rien vu, rien entendu.
Et il tombe, bim, mort d'une balle dans le cœur.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elles sont complices du meurtre ou alors victimes d'une mystification? Et on va le comprendre grâce notamment à Astrid, mais aussi grâce à vous, évidemment, qui joue Raphaël. Alors, ce qui est très intéressant dans votre dialogue entre toutes les deux, c'est qu'il y a aussi une différence d'appréciation entre les autistes et vous-même, entre elles, entre le premier et le second degré. Parce qu'Astrid ne comprend pas le second degré. Raphaël, vous êtes policière, vous menez l'enquête, je l'ai dit, vous devez parfois rendre des comptes au procureur et vous ne laissez pas faire. Par exemple, pendant une réunion collective au téléphone avec tout le monde, bim, vous lui raccrochez au nez. Ce qui ne se fait pas, devant tout le monde. D'où ensuite l'interrogation d'Astrid.
J'ai beaucoup de mal à identifier le registre locutif que vous employez avec le procureur en charge de l'enquête. Vous êtes familière, mais pas amicale.
Oui, mais non, en fait, je le connais d'avant, Astrid. Enfin, je l'ai connu. Très bien connu, même. Si vous voyez ce que je veux dire.
Absolument. Vous l'avez bien connu et vous le connaissez moins bien maintenant.
Non.
Ah.
Je suis sortie avec lui.
Sortie, c'est-à-dire?
C'était mon amant. Enfin, mon amoureux. Bon, on couchait ensemble, quoi.
Ah, oh, pardon, je n'avais pas compris.
Lola Devers, j'ai découvert que volontairement, vous ne vous étiez pas renseignée sur l'autisme avant le tournage. Pour quelle raison?
Non, alors je me suis pas plus renseignée parce que je suis quelqu'un de curieux et que je regarde tout et je regarde beaucoup de documentaires. Évidemment que j'avais vu des choses sur l'autisme et l'autisme, toutes sortes d'autisme, mais je voulais pas en faire mon... Je ne voulais pas arriver comme un petit singe savant sur le tournage, parce que justement, le personnage de Raphaël ne s'occupe pas de ça. Enfin, elle ne connaît pas aussi sur le bout des doigts l'autisme. Donc, je ne voulais pas me renseigner plus que ça.
Et garder la même distance qu'il y a dans
exactement,
la vraie vie avec tout le monde.
Exactement, pour avoir la même distance que le personnage.
La référence, la mienne, pour beaucoup de gens, et pour, peut-être pour vous aussi également, c'était Dustin Hoffman dans Rain Man, premier grand rôle d'un Asperger au cinéma. Hugo Auriot, Rain Man a fait avancer la cause, ou selon vous, il a introduit des idées fausses dans l'esprit du public?
Ah.
Disons que on peut aimer le film Rain Man qui a des qualités hein, sur le plan scénaristique, mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que le personnage Kim Peek, qui est le personnage qui est mort il y a peu de temps, mais qui a inspiré le personnage de Rain Man, lui-même n'était pas du tout autiste, contrairement à ce que croit le grand public.
Ah bon ?
Il avait une encéphalie cérébrale, c'est-à-dire une absence de corps calleux entre les deux hémisphères du cerveau. Il disait qu'il y avait des zones qui étaient connectées de façon inhabituelle par rapport à la norme, ce qui lui donnait une mémoire assez encyclopédique, mais par contre, qui le gênait beaucoup dans des gestes du quotidien. Mais donc, ce qui est assez drôle, c'est que la représentation cinématographique de l'autisme la plus connue n'est pas du tout inspirée d'un personnage qui dans la vie était autiste.
Vous voyez, j'ai appris quelque chose, je suis vraiment pas mécontent. Autre exemple mondialement connu, c'est Greta Thunberg, autiste Asperger, alors là, j'espère que c'est vrai, ce qui représente seulement 10% des autistes.
Ah oui, là, il n'y a aucun doute. Oui.
Voilà, alors, c'est encore plus complexe que ça, parce que vous dites... Vous, Hugo, qu'Asperger est une appellation qui n'existe plus.
Bah, Asperger a disparu, en effet, des classifications, et ce, depuis plusieurs années. Il y a eu aussi beaucoup de révélations sur l'ambiguïté du rôle qu'a tenu Hans Asperger pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a quand même travaillé à l'époque du nazisme, et donc voilà, il y a des questions très dérangeantes en effet sur le rôle qu'il aurait eu sur la façon de sélectionner quels enfants avaient le droit de vivre et quels enfants avaient le droit de mourir. Donc vous comprenez qu'avec tout ce contexte, le terme Asperger donc a très vite perdu son emploi, et puis également c'est que il induisait aussi une erreur, un sous-entendu que seuls les autistes qui a accès au langage verbal serait capable d'accéder à la pensée complexe. Ce qui est faux, puisqu'on a aussi beaucoup d'exemples d'autistes non-verbaux, et d'ailleurs on aborde un peu aussi ce thème dans Astrid et Raphaël, qui ont accès à une pensée complexe.
D'accord. Vous-même, quand même, votre histoire c'est incroyable. J'ai découvert, vous aviez parlé à l'âge de seulement 6-7 ans, l'intégration scolaire a été difficile, les enseignants ne voulaient pas de vous. Et là, j'ai relu 3 fois cette phrase, votre maman anticipée, elle vous a appris à écrire et à lire en une journée.
Oui, mais c'est parce que, en fait, c'est pas si extraordinaire que ça, puisque dans la plupart des profils autistiques, les profils concernés par l'autisme, eh bien, la mémoire et le processus d'apprentissage va être beaucoup plus facile, voire même supérieur à la moyenne dans le domaine de l'écrit ou du visuel, de la mémoire visuelle. D'ailleurs, la mémoire visuelle est un thème qu'on aborde dans Astrid et Raphaël. Et par contre, sur le plan oral, ça va être beaucoup plus difficile d'accéder, on va dire, à la science du langage verbal, qui en lui-même peut être finalement très compliqué, d'où les difficultés, par exemple, d'un personnage comme Astrid à saisir le second degré du premier degré. C'est un petit peu comme essayer de découvrir une langue étrangère. Ouais. Donc, c'est finalement assez courant, mais le problème, c'est qu'on a rarement des processus pédagogiques suffisamment individualisés et adaptés pour ces profils, si bien que le processus sélectif va ne se faire que sur des profils qui se développent, on va dire, dans le spectre majoritaire, c'est-à-dire une plus grande facilité d'accéder au langage verbal et d'apprendre par le langage verbal, et pas du tout par les canaux visuels ou de l'écrit. C'est assez courant d'avoir des autistes qui savent lire, écrire et compter très facilement et très tôt, mais qui vont parler beaucoup plus tard, voire pas du tout.
Je vais citer des autistes célèbres que j'ai découverts en préparant cet entretien. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, Bill Gates, fondateur de Microsoft, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, excusez du peu, et en science, je vais citer seulement 2 noms, Einstein et Marie Curie. Quels sont les points forts des autistes selon vous, Hugo Auriot ?
Ça dépend des profils, mais en général, les points forts ne se situent pas dans les points forts de la majorité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des difficultés souvent par rapport à la majorité, mais des points forts, ça peut être par exemple la mémoire visuelle, ça peut être de l'hyperacousie, ça peut être... Et donc, du coup, cette perception cognitive différente de ressentir l'environnement et de l'analyser va leur permettre de voir des détails que d'autres ne voient pas et d'imaginer des scénarios que d'autres ne voient pas. Donc ça peut faire, par exemple, des profils d'artistes, mais aussi des fois dans plein d'autres métiers. Et par exemple, ce qui se passe donc entre Astrid et Raphaël, les deux personnages en fait vont combler les angles morts cognitifs de l'autre. C'est-à-dire que chacune va voir une enquête sous un angle que l'autre n'a pas vu du tout. Et c'est ainsi qu'elles vont arriver à avoir une complémentarité extrêmement efficace et qui va les rendre plus fortes l'une et l'autre.
Vous êtes en train de parler du rôle de Lola Devers, vous confirmez, c'est ainsi que vous avez travaillé votre
absolument,
rôle.
Absolument, ce sont que c'est un puzzle, même leur relation à elle, c'est un puzzle. Il y en a une qui bouche un trou, l'autre qui rebouche un trou, et puis voilà.
Un mot du HPI, qui est le phénomène absolument incroyable, jamais une série en France depuis des années et des années n'a eu autant d'audience, c'est presque 10 millions de téléspectateurs par série, par épisode. HPI, haut potentiel intellectuel, incarné par Audrey Fleurot. Les personnes HPI ont souvent des caractéristiques communes avec les autistes Asperger. Hugo Auriot, est-ce que vous pensez qu'on va vers une meilleure...
Alors, des fois, on peut retrouver, les spectres peuvent se croiser, des fois.
Ça allait être ma question. Est-ce que vous pensez que cette série donne une meilleure représentation des personnes en situation de handicap à l'écran ? Handicap, évidemment, à prendre avec des guillemets.
Oui, parce que c'est une situation de handicap qui est générée par un environnement qui ne va pas être apte à comprendre cette différence et surtout à permettre aux personnes de capitaliser sur leurs points forts. Donc, pour assurer Raphaël, on voit bien cette question-là, parce que là, une des forces de la série aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui sont dans l'autisme, dans la série Raphaël. Donc, ce qui fait qu'on voit des profils assez différents et dont on va comprendre les difficultés différente. Donc oui, je dirais que la série, c'est pour ça que je suis très content de, d'y contribuer, pour moi, permet de donner un regard vraiment différent et beaucoup moins misérabiliste, même alors, pas du tout misérabiliste, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement
et je me
dans
permets...
des choses, des documentaires très alarmistes qui vont ériger l'autisme comme un repoussoir.
Et je me permets de vous interrompre pour dire qu'en ayant vu les épisodes, ce n'est absolument pas misérabiliste, c'est juste passionnant, j'étais happé et en plus c'est très drôle. Merci beaucoup Lola Devers.
Merci Hugo.
Je précise que ce soir vous apprendrez la différence entre les imprévus prévisibles et les imprévus imprévisibles, et je ne pensais pas qu'on n'aurait pas avoir le temps de détailler ce détail-là. Et le détail, je retire ce pléonasme. Merci beaucoup. La saison 2 d'Astrid et Raphaël, c'est ce soir sur France 2 à 21h. Merci encore Lola Devers.
Merci beaucoup.
Merci encore Hugo Auriot. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un magnifique documentaire consacré à Guernica, mais la ville, pas le tableau, quoique évidemment on parlait du tableau. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille que j'attends puisque ça parle de Formule 1. Notre invité était le plus jeune ténor du monde. Il a pris 10 ans, mais il est toujours très très jeune pour un ténor. C'est Amaury Vassili. Il y a son nouvel album qui sort, s'appelle Crescendo. Et puis dans les indispensables, des musées gourmands et la prog des vieilles charrues, c'est le festival prog, ça veut dire programmation dans le métier, on se la pète un peu ici. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.